Test, test.
Amen.
All right, working.
You're loud and clear.
Can you hear me, Bert? Amen. C'est bon. C'est bon. All right. Est-ce que vous êtes comme moi, là? Des fois, il y a des choses que tu veux faire et tu fais des excuses, tu les fais pas. T'es comme moi? Ouais? Ça arrive des fois dans la vie, hein? On veut faire des choses. On veut faire des choses, mais ça ne nous tente pas. Je suis fatigué. Ah, je suis trop fatigué. Trop fatigué. Ça me tente pas. Ça me tente pas d'aller courir, faire une marche, parce qu'il pleut. Il pleut dehors. Je veux te dire quelque chose. J'ai lu sur le météo qu'il va pleuvoir jusqu'à dimanche prochain. Des fois, je me pose cette question. Quand ce que mes émotions me contrôlent, je dis, si pas maintenant, quand? If not now, when? Si pas maintenant, c'est quand? Si je cours pas, aujourd'hui, quand est-ce que je vais courir? Demain matin, à 6 heures, demain matin, j'ai acheté un manteau de pluie. Parce que je t'ai dit la dernière fois que j'étais humilié quand j'ai fait les compétitions, so, j'ai acheté un manteau de pluie afin que demain matin, à 6 heures, je vais commencer à courir. Je vais penser à toi. Parce que, mais des fois, c'est ça. Nos émotions nous contrôlent. Nos émotions nous contrôlent. Et je travaille avec des jeunes. Et la plupart des jeunes que je travaille avec maintenant, ils fument. Ils fument toutes sortes de choses, mais ils fument les cigarettes quasiment toutes. Et lors de dîner, j'aime jouer au ball hockey avec eux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'étais jeune, il y avait une publicité sur la télévision sur la participation. Il disait qu'un Suédois de 60 ans était plus en forme que les 30 ans canadiens. Quelqu'un de Suède qui a 60 ans est plus en forme que quelqu'un de Canada qui a 30 ans. Est-ce que vous avez entendu ça? Tu te rappelles de ça? Oui, moi je veux dire, un homme de 60 est plus en forme que des jeunes de 17 ans maintenant. Surtout les jeunes qui fument. J'ai joué avec floor hockey avec un jeune. Ah, oh, il commence à tousser. Il commence à tousser. Un homme de 60 ans peut faire des cercles autour de lui. Mais il veut arrêter de fumer. If not now, when? Ah, plus tard. Plus tard. Ça calme mes nerfs. Ça calme mes nerfs. Quand ce que, il y a un autre jeune qui a dit, quand ce que j'ai 20 ans, je vais être en forme. Lui, il a 18 ans. Quand ce que j'ai 20 ans, je vais être en forme. Ça, j'entends. Galates 5, 16. Tu n'as pas besoin d'aller là. Je veux juste dire, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Amen. Je suis en train de parler d'évangélisation. C'est ça qu'on fait les mercredis soirs. Et l'évangélisation est toujours en saison. It's always in season. Si on veut marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, comment est-ce qu'on va marcher selon l'Esprit? C'est, bien sûr, c'est la prière. C'est la prière. Si on marche dans l'Esprit, on est toujours en communication avec Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si on marche selon l'Esprit, Dieu est en contact et en communication avec nous par la parole de Dieu. La fraternité, les dimanches matins, les mercredis soirs, les rencontres. Ça, c'est comment marcher dans l'esprit pour avoir de l'aide de quelqu'un d'autre pour nous aider à marcher dans l'esprit. Et c'est aussi l'évangélisation. Comment est-ce que l'évangélisation peut nous aider à marcher selon l'esprit? Hein? Il faut qu'on soit obéissant si on va partager la parole de Dieu. Il faut qu'on vive comme il faut si on veut partager la parole de Dieu. Combien de fois les gens à l'extérieur, les gens dans le monde ont appelé des chrétiens des hypocrites? Ça arrive souvent. C'est des hypocrites. Si on commence à faire des évangélisations, ça va nous aider à marcher selon l'esprit. Parce qu'on ne veut pas appeler des hypocrites. La chair et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair n'inclut pas seulement le corps physique, mais c'est l'esprit aussi, c'est le mind. C'est nos émotions, c'est notre volonté. Si on marche selon l'esprit, ça va contrôler nos émotions. Ça va contrôler nos désirs, ça va contrôler notre volonté, si on marche selon l'esprit. La dernière fois que j'ai parlé, j'ai prêché sur Acte 17. On va retourner dans le livre des Actes, chapitre 17, et on a fini le livre de Philippiens. Et en le 16e chapitre de Philippe, le 16e chapitre d'Actes, je veux dire, l'apôtre Paul a quitté les Philippes. Il était mis en prison avec Silas. Il a quitté Philippe. Il est allé à Thessalonique. Et il commence à parler dans les synagogues. Il commence à parler de Jésus dans les synagogues, si vous vous rappelez. Quand il parlait de Jésus, il ne voulait rien savoir de ça. L'apôtre Paul il a communiqué le message de Jésus. Il a raisonné avec eux, il a expliqué et il même essaie de prouver que Jésus est le Messie. Mais les gens dans Thessalonique, je ne voulais rien savoir de ça. Les gens, ils ont résisté la parole de Dieu. Alors, ils ont kické Paul de Thessalonique, il est allé à Barré. Mais à Barré, les Baréens étaient différents. Les Baréens accepter la parole de Dieu et même était plus vaillant, était dans les Écritures pour aller voir si qu'est-ce que Paul a dit était correct. Était plus vaillant. Et ensuite, les gens de Thessalonique savaient qu'il lui était barré, alors ils ont décidé d'aller à Barré pour le chasser de là. Soit maintenant, il arrive à Athènes. Athènes. C'est là où on va juste lire juste la section de chapitre 17 où ce que Paul est en Athènes. Et Athènes, Paul était moqué, ridiculisé. Pourquoi? Parce que Paul, il prêchait Jésus-Christ. À chaque place où il était allé, il prêchait Jésus-Christ. Le mercredi soir, la chose la plus importante qu'on peut parler, c'est de Jésus. Si on veut faire l'évangélisation, il faut toujours emmener Jésus. Jésus! Tout le monde a une opinion sur Jésus aussi. Soit il prend le nom de Jésus en vain, ou même des musulmans ont une opinion sur Jésus, les sikhs. Quasiment toutes les religions ont une opinion sur Jésus. Paul voulait toujours parler de Jésus, le message de Jésus, le Jésus qui a été crucifié, mais le Jésus qui est ressuscité aussi. Et il a dit en Corinthiens, nous prêchons Christ crucifié. C'est un scandale pour les Juifs. C'est une pierre d'achoppement pour les Juifs. Et pour les Grecs, pour les païens, c'était la folie. Aujourd'hui, si on parle de l'Évangile aujourd'hui, le monde pense que c'est la folie. Et on va parler de quelque chose aujourd'hui que le monde pense qui est la folie. C'est la folie. On va lire Actes 17. On va commencer à verset... On va commencer à verset 15. Verset 15. 15 jusqu'à 34. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisaient jusqu'à Athènes. Puis, ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tard. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-delà de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disent « Que veut dire ce discours ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils le prirent et l'amènent à l'aéropage en disant, ça c'est le marché, « Pourrions-nous nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu nous enseignes, qui nous fait entendre des choses étranges? Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangères demeurent à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, début, au milieu de l'aéropage, dit, « L'homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, « Un Dieu inconnu ». Ce que vous reverrez sans la connaître, c'est que je vous annonce, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains comme ils avaient besoin de quoi que soit lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie. Le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelqu'un de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semble à de l'or, à de l'argent ou de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Donc, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en lui ressuscitant de la mort. Je vais lire ça de nouveau. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils ont se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres disent, « Nous n'entendrons là-dessus une autre fois. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retirait du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachent à lui et crurent Denise l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. On va prier. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour que ta parole, Seigneur, nous parle. Nous parle de toutes sortes de choses dans la vie. Ta parole, Seigneur, c'est la sagesse. Et c'est la puissance de Dieu. Parle-nous ce matin, Seigneur, de qu'est-ce que tu veux qu'on entende, afin qu'on puisse marcher selon l'Esprit, vivre en obéissance à toi, Seigneur, et avoir une bonne vie en Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans le nom de Jésus. Amen. So, ce matin, j'aimerais mettre le focus sur un mot, se repentir. Se repentir. C'est ce que Paul a dit. Il a parlé de toutes sortes de choses. Il a parlé de Dieu, que Dieu il a créé la terre, et lui est souverain, et c'est Dieu qui nous donne le mouvement. Il a tout parlé de Dieu. Mais maintenant, il dit, il faut se repentir. Il faut se repentir. L'Évangile mène à une conclusion importante. On peut parler de Jésus. On peut parler de toutes sortes de choses. On peut donner notre témoignage à beaucoup de monde. Mais l'Évangile mène à un point important. Il faut qu'on fasse quelque chose. Les pécheurs ont besoin de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire? What should they do? Se repentir et croire. Il y a deux choses. Il y a deux étapes. Se repentir et croire. Mettre leur foi en Jésus-Christ. Jésus a dit, Marc 1, 14 et 15, pas besoin, je veux juste le lire. Après que Jésus a été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est pas juste croyez. C'est pas juste parce que beaucoup de monde croit en Jésus. Les musulmans croient en Jésus. Même le diable croit en Jésus. Jésus a rencontré le diable pendant ses tentations. Ce n'est pas juste croire, c'est mettre ta foi. Mais la première étape, c'est de se repentir. Ça, c'est la première étape. So, on peut parler de toutes sortes de choses, mais à un moment donné, le monde a besoin de se repentir. Acte 20, 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs, les repentances envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, c'est annonçant aux Juifs et aux Grecs, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance est contre et la repentance est envers Dieu. Dieu est saint. Dieu est parfait. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Il faut lui demander le pardon. Il faut. Ça, c'est la première étape. Et après, on va mettre notre foi en Jésus-Christ. Le péché est contre Dieu. Il faut demander le pardon. Dieu est plein de grâce et miséricorde. Dieu est bon. Envers nous. Il va nous pardonner si nous demandons. La repentance est un élément essentiel. Il faut demander le pardon. C'est pourquoi on est ici. On a demandé le pardon de Dieu. On a demandé le pardon, de nous pardonner. Pour les gens à l'extérieur, c'est la folie. C'est la folie. Je peux vivre la manière que je veux vivre. Pour les païens, la repentance, c'est la folie. Mais pour nous, c'est la première étape pour notre salut. Et le salut, c'est la sagesse de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la première étape, la repentance. So, ça, c'est qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va regarder, il y a sept choses qu'on a besoin d'apprendre à propos de la repentance. Et après, je vais donner une histoire. All right? Êtes-vous prêts? All right. Il y a beaucoup d'écritures. J'ai beaucoup de tabs dans la Bible. So, êtes-vous prêts? All right. La première chose qu'on devrait savoir à propos de la repentance. Jésus et ses apôtres ont prêché la repentance. Jésus et ses apôtres ont prêché la repentance. Matthieu 3, 2. Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a prêché? Jean-Baptiste, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. La repentance. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand est-ce que Jésus a commencé sa ministère? Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. À la fin, Jésus a prêché la repentance pendant tout son ministère. Et à la fin, Luc 24, à la fin de son ministère, à la fin de sa vie terrestre, il parlait à ses disciples. Il a dit ceci, Luc 24, 46 et 47. Et ils leur dirent, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus a commencé son ministère en prêchant la repentance. Jésus a fini son ministère en prêchant la repentance et même il a donné ça à ses disciples. Et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À Jérusalem, en Actes chapitre 2, à Jérusalem, Pierre était à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il commence à prêcher? 2:38. Ça, c'est le jour de la Pentecôte. 2:38. Quand le Saint-Esprit était donné, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et je vais lire 39 aussi parce que j'aime 39. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Jésus et ses disciples ont prêché la repentance. Ça a l'air assez important, n'est-ce pas? C'est important. Prêcher la repentance. Deuxième chose. La repentance, c'est un commandement. C'est un commandement. Acte 17, 30. On était dans Acte 17, 30. On était dans Acte 17. Annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils ont à se repentir. En anglais, ça dit, but now he commands all people everywhere to repent. He commands. C'est pas une option. Ce n'est pas une option. La repentance est un élément essentiel pour notre foi. C'est essentiel. Ce n'est pas une option. Il faut venir à Dieu dans l'humilité. Dans l'humilité. Il faut demander le pardon. C'est un commandement. C'est un commandement. On approche le Dieu de l'univers. On l'approche avec de respect, avec crainte. Et on a besoin de faire ce qu'il nous demande à faire. Il nous a demandé de prêcher la repentance. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est le commencement de l'Évangile, de prêcher la repentance. C'est un commandement. La repentance, la troisième chose. Deuxième chose, c'est une commande. Troisième chose, la repentance implique un retournement, un changement d'avis. On a besoin de changer la manière qu'on vit. C'est un changement 180 degrés. C'est un changement. On a changé. On ne peut plus vivre dans le péché. Les chrétiens ne peuvent pas vivre dans le péché. Est-ce que ça veut dire qu'on va prêcher? On va pécher? Mais oui! Mais on ne vit pas dans le péché. Mais on va pécher pareil. Mais Dieu est fidèle. Si on demande, si on vient à lui avec humilité, il va nous pardonner. Mais il faut venir avec humilité. Le problème aujourd'hui, c'est le monde pense qu'il connaît mieux que Dieu. Il pense mieux que Dieu. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je connais mieux que Dieu. Je peux vivre de ma manière. Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil de vouloir vivre comme tu voudras. Marcher dans l'esprit, ça veut dire marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon l'obéissance. D'admettre qu'on avait tort, que Dieu était correct tout au long. Dieu est toujours correct. La parole de Dieu est toujours correcte. Si tu as besoin d'une réponse, va dans la parole de Dieu. Si quelqu'un a une opinion autre que ça, et si la culture et la philosophie de ce monde est différente que la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas croire? Tu vas croire la parole de Dieu. Ah, mais tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Non. Si c'est contre la parole de Dieu, c'est un péché. Il faut se repentir. Et repentir, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire une fois et c'est fini. It's not one and done. C'est un style de vie. C'est un style de vie. C'est une vie d'humilité. C'est une vie de repentance. Je ne sais pas combien de fois j'ai péché. Je suis un homme. Et des fois, je suis un homme faible. Faible! Il faut revenir à Jésus. Il faut revenir à Dieu pour lui demander le pardon. De temps en temps. Peut-être tous les jours. Parce qu'on est bombardé aujourd'hui. On est dans une bataille. On est dans une bataille avec le monde. Les philosophes de ce monde, la culture. On est dans une bataille avec le diable. qui rôde comme un lion, qui veut nous dévorer. On est dans une bataille contre la nature humaine, l'homme, la chair de l'homme, mes pensées, mes désirs, toutes sortes de choses. Je suis dans une bataille. Il faut demander le pardon. Souvent. Souvent. La repentance, c'est un changement 180 degrés. Quatrième chose, la repentance. Le repentir implique le chagrin pour les péchés. Le repentir implique le chagrin pour les péchés commis. Quand est-ce qu'on fait un péché? On fait un péché contre Dieu. Contre Dieu. Contre Dieu seul. Mais les péchés sexuels sont contre notre corps aussi. Mais le péché, c'est contre Dieu. Il faut avoir le chagrin, un profond chagrin, une grande tristesse pour le péché. Et c'est Dieu qui a besoin de mettre la conviction en nous. Parce que le monde n'est pas convicté de leur péché. Le monde vit dans le péché et il pense qu'il vit au paradis. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Il faut que Dieu les convicte. Et nous, on va évangéliser, on va prier et on va essayer de les convaincre avec toutes sortes de choses. On va essayer de les persuader, on va parler et prouver et expliquer. Comme l'apôtre Paul a fait avec les Juifs, avec des Grecs, avec des païens. Il va essayer de faire un pont, une transition pour parler de Jésus. Pour que le monde se repentisse. Il faut qu'on voie le péché comme il est. Le péché, c'est la haine contre Dieu. C'est heinous. C'est haineux. C'est sale. Le péché, c'est qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Jim Malloy, il dit, je suis un dirt bag. Un dirt bag. Je me rappelle de ça. Comparé à Dieu, on est tous des dirt bags. Alléluia. 2 Corinthiens. Il faut qu'on soit triste. Il faut qu'on avoir un grand tristesse, un profond chagrin. 2 Corinthiens 7, 9 à 10. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens 7, 9 à 10. Il dit, je me réjouis à cette heure, non pas ce que je vous ai été attristé, mais ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Il parle de ça. Que votre tristesse amène à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu afin de ne pas de ne recevoir de notre part aucun dommage. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu. Il veut qu'on ait une tristesse. C'est la conviction. Si on n'est pas convicté, on est en train d'endurcir notre cœur. Il faut qu'on soit attristé par nos péchés. Si quelqu'un reste orgueilleux, est self-righteous, il va mourir dans ses péchés. C'est seulement quand on se réalise qu'on a au fond offended God, offensé à Dieu, qui est saint, qui est juste. Et on se réalise que c'est seulement nos péchés qui nous séparent de lui. Après, on peut revenir pour la foi, pour avoir notre foi en Jésus. Point numéro 5. Dieu est patient avec nous. Dieu est patient avec nous. Et je pense qu'on va chanter ça de nouveau plus tard, la bonté de Dieu. God is good. Dieu est plein de patience et de bonté et de bienveillance envers nous. 2 Pierre 39. 2 Pierre. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucune périsse, mais voulant que tous arrivent à quoi? À la repentance. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Il ne veut pas qu'il n'y ait personne périsse. Ça, c'est 2 Pierre, 2 Pierre 3:9. 2 Pierre 3:9. Dieu est patient avec nous. Il ne veut pas que personne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Romains 2:4. Hey, il y a beaucoup de versets dans la Bible. Hey, avez-vous remarqué ça? Ce n'est pas mon opinion. Mon opinion, c'est ça ne vaut rien. Et probablement, c'est plus facile de ne pas prêcher ça. C'est plus facile de prêcher d'autres choses. Mais c'est Dieu qui parle. C'est l'opinion de Dieu. Romains 2:4. Qu'est-ce que ça dit? Romains 2:4. Ne reconnaisse pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Ne reconnais pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est la bonté de Dieu. Il veut que tout le monde se repente. Il veut que tout le monde vienne avec une communication avec lui. Pas le sang de Jésus-Christ. Il faut se repentir. C'est ça qu'il dit. Dieu est patient avec nous. Numéro 6. La repentance mène à la vie. La repentance mène à la vie. Acte 2:18. Acte 2:18. Oh, c'est pas le verset que je voulais. C'est le verset qui dit la repentance mène à la vie. Louise, il faut que tu m'aides. La repentance qui mène à la vie. Hein? Où est-ce que ça se trouve? Où est-ce que ça dit ça? 2:18. J'ai écrit 2:18, mais ce n'est pas 2:18. Acte 2:18. Mais en tout cas, le verset dit que la repentance mène à la vie. Il n'y a que deux chemins. Il n'y a pas d'autre que deux chemins. Il y a un chemin qui mène à la mort, il y a un autre chemin qui mène à la vie. Mais la repentance mène à la vie. So, si tu viens mercredi soir, je vais dire exactement où ça dit ça. Parce que je pense que c'était 2:18. Si quelqu'un peut trouver. En tout cas. Mais ça, c'est le sixième point. Le septième point, c'est un cœur impénitent conduit à la mort. Il n'y a rien que deux manières de vivre. Il y a le chemin étroit et le chemin large. La chose qui est la plus de tragédie dans la vie, la tragédie, quand les pécheurs deviennent endurcir leur cœur et une tête dure, ça c'est la chose la plus tragique dans la vie. Et tout le monde pense qu'il va au ciel. 2:38. 2:38. Merci Ted. Je te dois. Repentez-vous. 2:38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ça dit, et que chacun de vous soit pardon et vous, mais vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Ça ne dit pas exactement que c'est la vie, mais c'est proche. Mais je vais donner une récompense pareille. Hein? 11:18. On va essayer 11:18. C'est bon quand on a des érudits ici. Des étudiants de la Bible. 11:18. 11:18. Ah, c'est ça que c'est. 11:18. Merci, José. Pas juste une chanteuse. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » C'est même les païens comme nous. On n'est pas des juifs, donc on est des païens. On n'est plus des païens. On est des croyants. On est enfants de Dieu. Où est-ce qu'il y a Allison? On est enfants de Dieu. Oui? Ça, c'est la chanson préférée d'Allison. On n'est plus esclave de la mort, on est enfant de Dieu. All right. Ça, c'est 7 points. Est-ce que je vous ai donné 7 points? La bonne nouvelle. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle qu'un sauveur, que Jésus est venu. Jésus, Dieu lui-même, est venu à terre. Dieu lui-même, pour nous sauver, pour nous guérir. Sauver de quoi? Sauver de nous-mêmes. Notre vie est destructive. Notre vie est destructive. C'est ça qu'on veut faire. Mais la réalité, il n'y a pas de salut sans la repentance. Et c'est la repentance qui mène à la foi. Sur la foi, la deuxième étape, ça s'en vient le 15 de décembre. Il faut attendre. Aujourd'hui, c'est juste la première étape, se repentir. All right, je vais donner une histoire. Ce n'est pas mon histoire, c'est une histoire de Jésus. Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13. À 5. Presque fini, Fern. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là raconteraient à Jésus ce qui est arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens étaient plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombé la tour de Siloé et qui a tué, croyez-vous qu'elle ait été plus coupable de tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est pourquoi les catastrophes s'en viennent. Les catastrophes s'en viennent. Il y a un tour. C'est écrasé. 18 personnes étaient mortes. Mais les Juifs disent, c'est à cause de leur péché. Mais on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi le tour a écrasé tout le monde. Ça ne dit pas. Mais Jésus a dit, ce n'est pas à cause de leur péché. Ça se peut qu'il y avait des chrétiens là. Ça se peut que quand un ouragan vient aux États-Unis, il y a des chrétiens qui sont morts. Pourquoi? 9-11. Combien de personnes ont été tuées? Repentez-vous. Le message, c'est de repentez-vous. Dieu est bon. Dieu, la bonté de Dieu est toujours avec nous. Pourquoi Dieu est bon? Parce qu'on était ici ce matin. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu donne des avertissements divins. Si un catastrophe s'en vient, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, repentez-vous. Repentez-vous. Parce qu'on ne sait pas quand ce que cette église va écraser sur nous. Le pont de Chéliac va, et on va se mettre dans la rivière. On ne sait pas. Repentez-vous. Des 18 personnes. C'était des chrétiens, on ne sait pas. C'était à cause de leur péché? Non. Ce n'est pas à cause de leur péché. Repentez-vous. Ça, c'est le message. If not now, when? Si ce n'est pas maintenant, quand? Dieu nous parle à travers la nature. Dieu nous parle à travers la parole. Dieu même nous parle à travers les catastrophes. Dieu est en train de nous avertir de se repentir. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. All my life you have been so faithful. I will sing of the goodness of God. Est-ce qu'on peut chanter ça? All my life, toute ma vie, tu as été si fidèle. Et moi, je vais chanter la bonté de Dieu. Je vais chanter la bonté de Dieu. Si quelqu'un ici a besoin de se repentir, tu peux repentir où ce que tu es. Tu peux te demander la pardon où ce que tu es. Mais si tu veux venir ici devant à l'autel, le monde va prier avec vous. Mais Dieu est bon. Et qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on tous se repente. Demande-lui le pardon. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta sagesse. Des fois, Seigneur, nous autres, on pense que c'est la folie. Demander le pardon. Mais toi, tu as dit, ça, c'est la première étape pour notre salut. Tu veux une relation avec nous, intime. Et tu ne veux pas que le péché soit dans la way. Merci, Seigneur, pour ta sagesse. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Seigneur, que cette Église en puisse marcher selon l'Esprit que tu nous as donné dans notre cœur. Dans le nom de Jésus, amen.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.